Automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
Ma belle jeunesse est partie avec un morceau de moi. Ma patience, ma souplesse et ma joie. Sans annonce, sans dire adieu, c'était juste comme ça. Comme une peine d'amour qui s'arrache de tes bras. Ma grande amie s'est sauvée avec un morceau de mon cœur. Mes secrets, mes souvenirs et mes bonnes histoires. C'est pas drôle vieillir quand le temps est voleur. Ça prend quelque chose pour remplir l'espace. Je vais prendre un verre, me donner de la misère pour changer.
Petit problème technique, on va faire avec ce qu'on peut, les petits problèmes avec l'introduction. Vous écoutez les affamés midi pile, comme à l'habitude, votre heure d'information, divertissement, actualité et tout le tralala pour la prochaine heure. Donc vous êtes avec nous, on a un superbe programme pour vous. Merci d'être à l'écoute, merci de vous joindre à l'équipe des affamés. On va avoir Pierre Lavoie avec nous à 12h40 pour nous parler de la baisse de la condition physique chez nos jeunes dans les dernières années. On va aussi parler à notre nouveau directeur musical chez Shiz, parler de la direction dans laquelle on va s'en aller pour les prochains mois, peut-être prochaines années, on l'espère. Mais surtout, surtout, je suis tellement heureux de vous introduire ma co-animatrice pour aujourd'hui, Madame Desmeules, bonjour!
Bien bonjour!
Notre chère directrice des arts qui se lance avec moi pour une émission d'information.
D'information, hey, qui l'eût cru quand
qui
même?
Qui l'eût cru, je suis excité comme un pou.
Je suis vraiment contente, Félix. Ouais.
Une belle collaboration, direction de l'info avec moi et direction des arts, ce qui veut dire, chères oreilles à l'écoute, que vous allez être gâtés en musique aujourd'hui.
Ah oui.
Plutôt que de m'avoir qui joue un peu à l'aveuglette en disant « ça a l'air d'un beau petit titre, ça va peut-être être sympathique. »
Vous allez vous croire à Chérie J'arrive pendant les moments musicaux quand même.
Ça sera super. Donc, le meilleur des deux mondes. De la bonne musique, de la bonne actualité, des bonnes discussions et un petit peu de débat à travers de tout ça. Très heureux de vous avoir avec nous. C'est une journée pluvieuse aujourd'hui, 15 à 25 mm de pluie qui sont attendus au courant de la journée. Donc le parapluie va peut-être être nécessaire pour sortir. Ça suit une couple de journées grises qu'on a eues dans les derniers jours. La bonne nouvelle, courage, patience, parce que dans les prochains jours, ce sera du grand soleil qui nous attend pour un bon moment. Demain, 0 degré Celsius le maximum, soleil avec un petit peu d'ennuagement. Vendredi, moins 4, gros soleil. Samedi, moins 5, gros soleil. Dimanche, moins 6, gros soleil. Des belles températures, du gros soleil, rien que du bonheur pour le week-end qui s'en vient. Donc, survivons et voyons le verre à moitié plein à travers cette journée pluvieuse.
Félix-Antoine, le soleil, on le watch chez nous? Le soleil a maintenant son petit tableau près de la porte avec son horaire. On considère que le soleil fait son shift là, dans notre colocation. Alors, tous les jours, j'efface le tableau et je mets l'heure du lever et l'heure du coucher du soleil. On a perdu une minute aujourd'hui, c'est vers 7h15. Et il se couchera avant le début de Chérie J'arrive. Il se couche à 15h56 aujourd'hui.
J'ai pas besoin de ces informations. J'ai pas besoin de savoir que quand on part, il fait déjà noir. Je le vis, c'est correct. Me rends triste. Ça arrive bientôt. On arrive bientôt au solstice. Bientôt, les journées vont recommencer.
Tout à fait, à rallonger.
C'est une journée pluvieuse et bon, on est bien dans la bonne humeur, vous le sentez ici, mais pour plusieurs propriétaires, ce n'est pas la meilleure des journées. On le savait que ça s'en venait, on le voyait venir, mais c'est une autre augmentation, une autre augmentation du taux directeur de la Banque du Canada qui a été annoncée aujourd'hui. Et elle est quand même majeure, c'est 50 points de pourcentage qui s'ajoutent à notre taux directeur qui atteint maintenant 4,25%. On passe donc de 3,75 à 4,25. du côté de la Banque centrale, on disait les consommateurs et les entreprises s'attendent à ce que l'inflation reste au-dessus de la cible. Il y a moyen de tenter d'apaiser encore l'inflation qui est trop forte. C'est donc pris encore. Et j'ai beaucoup de discussions dans les dernières semaines. J'en ai eu beaucoup avec notamment notre chroniqueur économique sur les impacts que ça peut avoir. Encore hier, on en parlait, de gens qui se ramassent, surtout à taux variable.
C'est ça l'affaire.
À payer plus en intérêt, tout simplement, ne payent même plus leur capital. Des gens qui sont rendus avec des amortissements de plus de 30 ans, ce qui n'est pas supposé arriver, c'est triste à voir aller et ça va continuer à s'ajouter là, de plus en plus. Je pense qu'on disait que c'est 17 % des hypothèques complets à travers le Canada qui ont atteint le taux déclencheur. Ça, c'est le taux à partir duquel tu es en train de payer seulement des intérêts.
Plus 17 % des hypothèques.
C'est énorme, c'est gigantissime. C'est des gens qui ne voient que de l'argent s'envoler dans le vide. Tu sais, quand on dit l'immobilier, c'est le meilleur investissement que tu puisses jamais faire, c'est généralement vrai parce que ça prend de la valeur, mais faut que tu le payes, ton hypothèque, ta paye.
Félix, moi, devenir propriétaire, c'est un rêve que je ne fais même pas la nuit. Tu sais, quand...
Ton cerveau te le permet même
non,
pas.
Non, même pas. T'essaies même pas quand penser, je dors.
T'essaies d'y penser, mais dis, wow, papillon, restons réalistes. Là, je vais t'envoyer une licorne puis un dragon, mais ça, non merci.
C'est ça. Donc, même pas la nuit. Donc, pour moi, c'est peut-être un peu plus intangible l'impact que ça a en ce moment. J'aurais peut-être besoin d'un cours 101 de quel est l'impact de la hausse du taux directeur sur les paiements lorsqu'on est propriétaire? Comment ça marche, le taux variable de cassé?
Je ne suis pas l'expert non plus. Là. C'est souvent Nick qui nous en parle, mais principalement, le taux variable, c'est la banque qui va s'ajuster selon le taux directeur, selon les coûts. Donc, tout au long de ton paiement, ça va s'ajuster.
Ouais.
Ce sera jamais... Mais souvent, il va peut-être être un petit peu plus bas en temps d'inflation plus basse, mais plus haut à d'autres moments. Taux fixe, il ne bougera pas. Mais justement, là, s'il ne bouge pas, mais le coût augmente à cause de l'inflation, mais c'est là que tu atteins ces taux déclencheurs-là, où ce qu'on amortit plus loin, où on accepte, mais à un certain moment, quand tu renégocies, mais c'est de dire là, tu as juste payé des intérêts, donc il va falloir qu'on augmente. C'est un peu où on se rend dans plusieurs cas. Puis ça va affecter quand même toi et moi qui sont locataires.
C'est ça.
Parce que...
Le taux directeur de mon propriétaire
il a augmenté.
Abondi.
Fait que c'est une justification. Évidemment, tu peux pas augmenter de façon infinie. Il y a des lois contre ça, mais reste que ça peut justifier ton augmentation maximale de la loi à chaque année, là, sans aucun problème. C'est ce qui se passe en ce moment. Les loyers qui vont exploser, évidemment, quand un loyer se brise, bien... Il y a une raison, une justification, une augmentation significative qu'il n'y avait peut-être pas avant.
Ouais.
Ce qui fait qu'on va voir des loyers de plus en plus chers. On voit évidemment des produits aussi parce que faut pas l'oublier, là, mais les commerçants, il faut que tu l'achètes,
aussi,
la bâtisse.
Locaux, là, ouais.
Il faut aussi que tu payes une hypothèque sur ton local, sur ton commerce. Eux aussi, ils doivent augmenter leurs coûts en fonction de ça. C'est pour
ouais,
ça
c'est pas fou.
L'inflation cherche à justement limiter les dépenses parce que les produits augmentent en valeur. Et l'inflation continue parce qu'on continue de dépenser. On a beau le dire là, que tout augmente, mais les dépenses se poursuivent chez les gens de façon assez importante, ce qui est très rare dans des contextes inflationnistes. Habituellement, ça ralentit l'économie, mais les gens vont continuer de dépenser, vont continuer de voyager, continuent de se divertir. Puis malheureusement, la solution pour arrêter, c'est ça, c'est une récession où les gens arrêtent de dépenser.
Puis je suis contente que tu soulignes que même si on n'est pas propriétaire, ça a un impact financier sur ce qu'on va dépenser. Quand le prix du litre d'essence augmente, je me dis, hey, moi, j'ai pas de char. T'sais. Sauf que tous les produits que je consomme sont livrés
Exactement. Avec
un véhicule qui roule à l'essence. Donc même si j'ai pas de voiture, je subis quand même les impacts et j'ai donc un intérêt à être au courant du coût de l'essence, même si directement, j'ai rien à t'inquiéter.
Exactement. C'est vraiment là l'impact. Moi non plus, j'entreprends par moment l'automobile de ma copine, mais je suis en transport en commun régulièrement et tu le sens quand même, cet impact-là.
Ouais.
Notamment, c'est ça qu'on dit, là, la guerre en Ukraine. Oui, il y a certains enjeux d'approvisionnement, par exemple, de céréales, mais on est déjà un grand producteur de céréales comme l'Ukraine l'est. Donc, c'est pas nécessairement ça qui est dérangeant, c'est l'approvisionnement de pétrole et ainsi de suite du côté des pays qui exportent beaucoup, qui importent beaucoup de gaz russe, de pétrole russe. Mais eux, après ça, ça leur coûte plus cher pour nous envoyer les produits, etc. C'est une chaîne sans fin, là. Il y a bien des avantages à la mondialisation. Il y en a des gros désavantages et ça en fait certainement partie. Donc, l'inflation qui va continuer à lever, à monter. Là, rappelons que l'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation était à 6,9 % en octobre. mais que les mesures de l'inflation de base qui exclut l'alimentation et l'énergie montraient des signes de ralentissement. Donc, peut-être qu'on approche, là. Peut-être qu'on n'aura plus à avoir une autre hausse. On n'a pas fermé la porte du côté de la Banque centrale du Canada. Ça se peut qu'en 2023, il y ait d'autres hausses encore. Mm-hmm. On va voir. Mais au moins, l'inflation semble ralentir. Très tranquillement, comprenez-moi bien, mais elle semble ralentir.
Ça faisait 2 ans que le taux directeur n'avait pas bougé, si j'ai bien...
Avant cette année, là.
Ouais.
Parce que depuis cette année, il a monté de façon majeure. Mm-hmm. Mais non, effectivement, ça avait été assez stable pendant longtemps dans les dernières années, avant d'arriver où ce qu'on en est présentement.
Je me demande s'il y a un lien entre cette annonce qui survient aujourd'hui et les chèques de la CAQ qui commencent à rentrer. Le timing est comme pas pire.
Il est pas pire, mais on commençait, c'est ça, plus tôt cette semaine. On cherchait tantôt, t'es comment on a toujours su?
C'est ça, on allait tous dans nos comptes accéder et
mais
compagnie.
Mais c'est-tu ce que je... Puis là, je vais terminer là-dessus parce qu'on a fait quand même le tour de l'inflation. Mais quand je te parle du fait que personne ralentit nécessairement les dépenses,
ouais.
Ce 600$-là, toi, de ton côté, il va aider particulièrement à quoi?
Hey, wow! C'est une des premières fois où, confident, j'espère mes parents sont peut-être pas à l'écoute ce midi, ils vont faire des commentaires sur mes finances, payer ma carte de crédit.
Okay.
Ça fait longtemps que mon compte en banque et mon compte de carte de crédit n'ont pas été kiff-kiff. Là.
OK.
Ouais,
à ce moment-là, je te dirais que tu vois, t'es un exemple de là où c'est pertinent et utile
ouais.
d'avoir ce 600$-là. Moi, sais-tu, il va m'aider à acheter des cadeaux dedans.
OK, tu vas payer des petits plus, peut-être?
Ben, pas nécessairement des petits plus, mais me permettre d'être comme un Noël relativement normal.
Ah, OK.
À payer un cadeau à ma soeur, à mon frère, à ma mère, à ma filleule.
T'aurais pas été mal pris sans le chèque, mais t'aurais
mais j'aurais eu un Noël très sobre.
Des efforts, OK, ouais.
Fait que, disons que ça n'aidera pas l'inflation, là, ma dépense. Il y a beaucoup de monde comme toi. Je dis pas que 600$ n'est pas justifié pour ces gens-là, comprenez-moi bien, puis... De certaine manière, je suis loin d'être riche, là. Très, très loin d'être riche, mais je suis relativement stable présentement. Ça va m'aider sans nécessairement changer ma vie. Puis
ouais.
C'est ce que ça risque de faire pour beaucoup de gens qui vont, d'une certaine manière, contribuer à l'inflation. Évidemment, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de propriété. Fait qu'il y a des gens qui ont plus d'argent que moi, qui ont plus besoin du 600$.
Certes.
C'est toujours, évidemment, dans une mesure comme ça, tu peux pas... si tu essaies d'être hyper ciblé, tu finis par... toucher personne, puis il va avoir des oublis. Je comprends la volonté, mais reste, on en est là. Mm-hmm. Madame Desmeul.
Ben oui.
Avez-vous le goût qu'on se pogne?
Ah! Wow! On le fait déjà souvent hors d'onde, Félix, fait qu'on devrait être bon là-dedans, je te dirais.
On a
une
expérience. J'ai vraiment aimé ce que tu m'as envoyé. C'est une déclaration de l'IRIS, là, une publication de l'IRIS, l'Institut économique, le think tank économique situé à Montréal. Qui parle notamment de ce qui s'est passé le 13 septembre dernier quand il y a eu l'équivalent d'un mois de pluie qui est tombé en une seule journée dans la région de Montréal, des gens qui ont vu leur sous-sol inondé. Et ils disent, ben ces gens-là ont probablement dû aller travailler quand même.
Mm-hmm.
Parce que des congés payés, c'est pas donné nécessairement. Dans tous les cas, c'est difficile. Et ce qu'ils proposent et ce qu'ils mentionnent avec l'augmentation de la fréquence, l'intensité des événements climatiques extrêmes, c'est d'ajouter... aux travailleurs, dans les conventions des travailleurs, là, des obligations gouvernementales, des congés payés pour subvenir à ces problèmes-là.
Ouais.
Donc, de dire, ben, s'il y a quelque chose qui arrive niveau, relié au changement climatique, une tempête de neige qui m'empêche de me déplacer, il y a une inondation liée à une pluie diluvienne ou simplement une inondation tout court. Là, on voit dans la région, notamment près des grandes rivières, près des grands lacs.
Ouais.
Toutes ces conditions-là sont bonnes pour avoir ces congés qui seraient nécessaires, qui seraient donc offerts selon la loi. J'ai exprimé beaucoup, j'en ai beaucoup d'interrogations, de doutes et d'opposition face à ça. Donc, je suis curieux de t'entendre parce que c'est toi qui m'as amené ça. Tu trouves la mesure intéressante? Je t'écoute, je suis grande oreille.
OK, bon. Sans avoir une prise de position claire à propos de l'instauration de ces congés climatiques, Krim, je pense que c'est quelque chose dont on devrait discuter parce que nécessairement, il y aura de plus en plus de catastrophes naturelles qui vont effectivement nous retenir à la maison.
Ça, c'est sûr.
Donc, ça me fait penser un peu aux imprévus de santé. Donc, les congés maladie.
Oui, qu'on a déjà imposé.
Ou à la mesure, bon, quand la pandémie nous a forcés, on ne pouvait plus aller au travail, il y a, tu sais, la PCU qui est apparue. Fait qu'il y a même des congés menstruels, tu sais, Félix, qui apparaissent dans certaines entreprises.
C'est vrai.
Ce qui fait que ça me fait penser un peu à ça. Tu sais, quand quelque chose survient contre toi, que tu ne peux pas. T'as rien pu faire là, pour empêcher ça de se produire. Ça brime, tu peux pas aller au travail.
Donc, je suis pas. C'est à tes frais, ouais.
Je suis pas complètement contre. En tout cas, de prime abord, je vois ça et je me dis, ah, crime, c'est pas fou. Va falloir y penser.
L'idée n'est pas folle. L'enjeu que j'ai toujours avec des impositions sans rien, sans outre mesure, que c'est dans la loi puis tout le monde doit s'y conformer. Mm-hmm. Comprends-moi bien, j'ai aucun problème, puis je sais qu'eux ont aucun problème que McDo doive payer 2-3 journées par année à un employé parce qu'il y a un enjeu lié au changement climatique.
Ouais.
C'est les petits commerçants.
Ouais.
C'est les petits pops and moms business qui... pas nécessairement une question que... Comprends-moi bien, un bon patron va te laisser ne pas rentrer au travail parce que t'as un problème. Mais devoir payer une journée à un employé qui n'est pas là, puis sûrement payer l'autre journée à un autre employé qui doit venir remplacer, c'est quelque chose qui pourrait facilement devenir rapidement problématique pour des petits employeurs. Puis c'est ce qui m'inquiète beaucoup dans des mesures comme ça. Mm-hmm. J'ai beaucoup d'inquiétude là.
C'est pas fou parce que moi, une des premières choses... Première situation, cas de figure auquel j'ai pensé, c'est aux îles de la Madeleine. Puis je me dis, tu sais, quand ils perdent le courant, les problèmes avec les berges, puis je me dis, crime, les petits commerces aux îles qui roulent surtout l'été, c'est clair que l'hiver, c'est pas là que tu as nécessairement les moyens de payer des journées off, des congés climatiques à tes employés. Ce qui fait en sorte que je me disais, c'est peut-être une mesure qui devrait être nationale, un peu comme on le fait avec les arrêts de travail, par exemple. T'as un 15 semaines, c'est pas ton employeur qui te donne ce montant-là. C'est quelque chose ce qui fait en sorte que c'est toute la population qui enverrait du support, par exemple, aux travailleurs des îles, travailleuses qui ne peuvent pas rentrer. Et non seulement, parce que les changements climatiques, ça nous concerne tous, là. C'est pas la faute des Madelinos si finalement les berges sont en pleine érosion. C'est quelque chose dont on est tous responsables, ce qui fait en sorte que je pense que ça devrait être une prise en charge commune aussi, tu sais.
L'autre enjeu pour moi, c'est est-ce que c'est vraiment autant une nécessité dans notre époque actuelle? Pourquoi? À cause du fameux télétravail qui est rendu tellement normalisé, tellement facile pour la grande majorité des employeurs que dans une situation comme ça, est-ce que c'est pas possible à ce moment-là d'y aller par télétravail, de compenser?
Là, c'est moi qui dois te répondre. Mais en douceur, quand même.
Vas-y.
L'Iris, le cas qui approche, c'est notamment celui dans Hochelaga Maisonneuve à Montréal. Ouais. En septembre, ça a été un mois de pluie, puis il y a eu énormément d'inondations. Là, t'es chez vous. Là.
Ouais.
L'eau est dans le sous-sol. Là. C'est là que t'habites, puis t'es deux pieds dans l'eau. C'est clair que le courant est coupé, puis qu'il faut que tu défasses le tapis, puis que, tu sais, Calinette est chez vous. Puis je pense pas que tu vas être en mode télétravail. Ben, faut que tu gères ça à la maison, c'est dans le salon. Fait que le changement climatique, ton congé, t'en as pas besoin nécessairement pour quelque chose qui est extérieur, loin de chez toi. Ça se peut que ça soit direct dans ta maison. Ouais. L'arbre est tombé sur ton char. T'as des affaires à gérer. Les assurances, les name it. Surtout si le bris est vraiment dans la maison, c'est sûr que t'as pas à tête au télétravail pantoute.
Tu sais, comprends-moi bien, l'opposition est pas drastique de mon côté, mais je me dis... La dernière chose que je vois, c'est que c'est peut-être limitatif d'ajouter simplement des congés spécifiquement climatiques quand il y a tellement de plus en plus d'enjeux qui nécessitent d'avoir cette nécessité de congés. Le travail, la conciliation travail-famille est de plus en plus importante. Tu regardes des pays qui testent les semaines de 4 jours, tu regardes des pays qui testent, qui ont déjà en fait plus de congés maladie payés que nous, des pays européens notamment, et tu vois des bons résultats. Je ne vois pas pour moi l'utilité d'ajouter un congé si spécifique que ça, plutôt que de simplement avoir des congés payés, réguliers, peut-être un peu plus offerts. Puis après ça, c'est certain qu'il y aura des gens qui vont utiliser à mauvais escient, là, si tu me permets, là, qui vont utiliser à qui mieux comme ils veulent. Mais rendu là, c'est leur décision, puis ils géreront en fonction de ça. Mais clairement que... C'est tellement spécifique. C'est si spécifique, comme tu as dit, pour que ce soit pertinent, il faudrait que ce soit un enjeu national, donc dépense gouvernementale. Comment tu décides combien tu mets là-dedans? Parce qu'il y a une année que tu n'en auras peut-être pas besoin, donc c'est une dépense qui est mise en réserve. Il y a peut-être deux années de suite, tu n'en auras pas besoin ou à peine. Puis là, soudainement, tu n'auras même pas assez à la troisième année quand il va y avoir une catastrophe qui va frapper, par exemple, les îles de la Madeleine. Je ne sais pas à quel point cette mesure-là, si ciblée pour moi, a vraiment une pertinence intéressante.
Ben, c'est peut-être quelque chose dont... Peut-être qu'on va devoir y réfléchir une fois qu'on va être sur le fait, devant le fait accompli, un peu comme ça a été le cas avec la pandémie puis la PCU. J'ai l'impression que, bon, commencer à y réfléchir, c'est pas mauvais, là, mais probablement qu'on va arriver puis on va être confronté à un problème. Puis tout de suite, il va falloir instaurer une mesure spéciale. Là.
Et vous, à la maison, qu'en pensez-vous des congés spécifiques pour les changements climatiques à la maison, au travail, dans l'auto?
Oui, surtout si vous êtes à job en ce moment, parlez-en avec le boss.
Oui, c'est ça. Checkez donc avec lui qu'est-ce qu'il en pense. Pendant ce temps-là, nous, on va en musique. C'est Lyd, tout renversé de son dernier album Exit.
Affamé sur les ondes de Chiz 94.3.
Midi 23, bon appétit si vous êtes en train de manger, bonne route si vous êtes dans votre auto, puis bonne maison si vous êtes à la maison, je sais pas.
OK, ouais, bonne maison. Il y a des gens qui se lèvent aussi, fait qu'on lui souhaite bon déjeuner.
Oui, bon déjeuner, bon matin. J'espère que la nuit a été bonne. La soirée a peut-être été rough si vous êtes levé à midi. Mais on juge pas, on est avec vous. C'est Félix-Antoine Audet, Andréanne Desmeules, Madame Desmeules qui nous accompagne. Et je suis très heureux de vous présenter Roulement de tambour. Notre nouveau directeur musical, William dit Mémo Gauthier.
Oui. Salut, salut. Hey, c'était un beau roulement de tambour. Hey, ça, c'est
vraiment,
incroyable.
C'était vraiment bien synchronisé. Oui. Je suis fier de nous.
J'ai vraiment aimé ça. On devrait en faire plus souvent pour vrai. Là.
On va instaurer une politique de roulement de tambour obligatoire chez Chiz 94.3.
J'approuve.
Mémo. Oui. Comment vas-tu?
Ça va super bien, vous autres.
Très bien. Good. Heureux de te recevoir, heureux de t'avoir dans l'équipe chizienne.
Yes.
Tu es donc notre nouveau directeur musical. Comment ça se sent? Est-ce qu'on est un petit peu fébrile? Ben, excité?
Ben oui, je suis vraiment excité. Puis honnêtement, on dirait que je commence à le réaliser. Là. Ben, c'est juste ma deuxième journée, mais... Tu sais, faut que je me laisse le temps aussi. Mais là, je commence à comprendre que c'est du concret, tu sais, en venant au bureau à chaque jour, puis tout ça. Puis en voyant comme avec la gang comment ça se passe, fait que je suis vraiment content de commencer cette aventure-là avec vous autres.
T'as encore juste vu le bon côté de la gang, là, ouais, quand on commence ça. À te terrifier. Tu viens prendre la relève de Guillaume Pépin qui aura donné d'incroyables belles années. D'ailleurs, on va s'assurer clairement de le recevoir ici là, aux Affamés avant son départ, qui a donné de très belles années à Chiz. Ce sera quoi la touche mémo au département musical Chizé?
Hey, ça, c'est une maudite bonne question. Ben, la touche mémo, moi, j'aimerais vraiment ça faire en sorte que... comme à travers la rotation musicale de Chiz, qu'on ressente comme la passion que j'ai pour la musique. J'ai vraiment le goût de faire découvrir des bons bands de Québec, des bons bands du Québec, puis aussi des bands d'ailleurs, parce qu'il y a de la bonne musique qui s'en fait partout, puis il y a vraiment des scènes que je trouve vraiment intéressantes, comme notamment la scène garage rock australienne, que j'aimerais vraiment ça mettre de l'avant un peu plus à Chiz, parce que je sais qu'il y a aussi, la scène plus post-punk, mettons, au Royaume-Uni, qui est vraiment super intéressante aussi, puis qui est déjà comme un peu mise de l'avant à Chiz. Fait que j'aimerais ça comme continuer dans ce vibe-là aussi, parce que mais j'adore ça aussi.
Donc, une espèce d'ouverture vers l'international, en plus de garder évidemment là, ben la priorité de Chiz, c'est nos artistes émergents de Québec.
C'est sûr.
Mais de montrer ce qui se fait ailleurs, c'est super, super intéressant. Et ton background musical, c'est où? Parce qu'évidemment, pour avoir un poste comme ça, il faut que tu sois un passionné, une bible. Et j'ai déjà réalisé que tu l'es, que par t'entendre par-ci, par-là au bureau. Ça vient de où, cette passion-là?
Hey, ça vient de... Écoute, ça fait super longtemps là, que je trippe bien gros là, sur la musique. Là. Je te dirais depuis mon secondaire, là, depuis que j'étais ado, là, j'ai commencé à triper bien gros sur la musique quand j'ai découvert Nirvana, là, le classique un peu. Là.
Ouais.
Puis à partir de là, je découvrais des bands, puis là, je me mettais à découvrir ces groupes-là, puis là, j'allais lire sur Wikipédia comme à plus finir, genre pour apprendre. T'sais, dès que j'aime de quoi, j'ai vraiment le goût d'en apprendre plus sur ce groupe-là, puis c'est quoi le processus créatif. Fait que ça vient vraiment de là, là, comme vraiment de la curiosité, puis...
Une simple curiosité
une
musicale.
Une simple curiosité qui a juste comme explosé, dans le fond. Là,
là pour les auditeurs habitués de Chiz, est-ce qu'on peut s'attendre à garder le palmarès, les entrevues musicales, ça c'est Émilie Rioux, mais toutes ces émissions que Guillaume Pépin prenait en charge, c'est toi qui vas prendre le relais?
Ouais, en plein ça. Puis, tu sais, c'est ça, le palmarès, ça va continuer, c'est sûr. Puis j'aimerais vraiment ça, comme qu'il y ait une émission qui revienne là, par rapport à des critiques d'albums.
Cool. Oui,
avec plusieurs collaborateurs, justement, je trouverais ça super intéressant.
Oui, un comité d'écoute, ça me ferait bien plaisir, notamment dans l'équipe. Je pense qu'on devrait passer ce genre de moment-là aussi ensemble autour de la musique. Je sais que c'est ton genre, M. Gauthier. Puis, ce que j'aime également, c'est que j'ai su entre les branches que tu jouais déjà un rôle au sein de ton cercle d'amis en diffusant tes découvertes. Ça, ce rôle-là de promotion de la musique, là, tu l'appliquais déjà au quotidien. Fait que j'ai plutôt confiance que ça va se poursuivre à Chiz. Ouais, la gang, checkez ça, c'est malade!
Totalement. Puis c'est ça, j'ai l'impression que... C'est ça, depuis que je suis arrivé, j'ai l'impression que je travaille pas, entre guillemets, dans le sens que, crime, je fais déjà ça de ma vie. Fait que autant bien mettre un petit salaire là-dessus.
Parlons d'ailleurs un peu de ton parcours, là, parce que c'est une chose quand même très intéressante et qui va venir rejoindre un peu notre actualité. Tu étais travailleur social de ce que
travailleur
j'ai...
Travailleur de rue.
Travailleur de rue,
ouais.
Avant de venir ici. C'est un milieu, dans le milieu communautaire, un milieu qui est certainement pas facile. Comment a été ton expérience là-bas?
Ben en fait, tu sais, j'ai été travailleur communautaire environ 5 ans, puis j'ai fait du travail de rue pour la dernière année. Ben écoutez, c'est un beau milieu dans le sens qu'on rencontre vraiment des personnes formidables, puis on crée des liens, puis c'est vraiment là-dessus, c'est axé sur le lien puis tout ça. Mais c'est sûr que c'est un milieu qui est pas facile dans le sens que c'est un milieu que c'est facile de tomber dans l'usure de compassion. Tu sais, il y a beaucoup de demandes aussi, il y a beaucoup d'urgences. T'as l'impression qu'il y a tout le temps comme des feux qui sont à éteindre.
Ouais.
Puis un moment donné, même si ça, c'est un beau métier, mais ça finit que ça, ça pèse lourd aussi. Là.
C'est des histoires qu'on entend de plus en plus là, chez les travailleurs communautaires dans divers milieux, que ce soit la rue, le communautaire en général. On dit que c'est brûlant, c'est difficile de suivre. Trouves-tu que il y a moyen d'en faire plus? Comment on peut en faire plus pour épauler des travailleurs comme toi qui malheureusement quittent parce que c'est beaucoup trop là, à un certain moment? Là.
Ben, je pense que c'est d'offrir du soutien à ces travailleurs-là, justement. Parce que tu sais, je trouve qu'on vit dans une société où on dit que c'est important de prendre soin de soi, mais en réalité, on nous offre pas vraiment ces moyens-là. Puis dans le communautaire, c'est vraiment quelque chose qui est prisé. Là. On se fait vraiment toujours dire « prenez soin de vous, vous êtes votre propre outil de travail » puis tout ça. Puis quand tu tombes en arrêt de maladie, en burn-out, quoi que ce soit, on dit souvent de la personne, mais crime, cette personne-là, ben elle a peut-être pas pris assez soin d'elle. Ouais. Au final, pourquoi la responsabilité devrait être à cette personne-là quand manque des moyens, justement?
C'est une forme de soin là, d'accepter puis de le nommer, de partir en arrêt de travail. C'est un signe aussi d'écoute de soi puis de ses besoins.
Totalement.
C'est quoi le plus grand problème, dirais-tu? Puis c'est peut-être un mélange de tout. J'essaie peut-être de simplifier quelque chose de beaucoup trop complexe. Est-ce que c'est salarial? Est-ce que c'est au niveau de la charge de travail? Est-ce que c'est au niveau du manque de ressources?
Ben écoute, je veux pas parler au nom du communautaire.
De ton expérience
à
toi.
Mais au personnel, je dirais que c'est vraiment le manque de ressources. Vraiment comme au niveau... ben tu sais, c'est ça, ça prend du ressourcement, tu sais, autant pour soi, puis aussi, tu sais, au niveau de la main d'œuvre, des fois, tu sais, c'est plus difficile de recruter des gens, puis tu sais, c'est un milieu où les intervenants ils restent pas tout le temps nécessairement dans le milieu communautaire, parce que des fois ils quittent pour le public parce que c'est plus payant, aussi des meilleures conditions de travail. Mais c'était un peu comme une dualité entre est-ce que t'as mieux des bonnes conditions de travail ou t'as mieux un travail plus humain. C'est vraiment... Il y a tout le temps cette dualité-là un peu avec le...
C'est devoir choisir entre ta propre personne et aider les autres.
Ouais. Exact.
T'sais, dans un monde idéal, tu serais capable de prendre soin de toi et des autres.
Comme si c'était irréconciliable, ces deux choses-là.
C'est ça. William Mémo Gauthier, le nouveau membre de l'équipe chisienne. Merci,
merci
d'être
beaucoup
avec nous.
Ben, merci.
On va prendre une pause musicale. C'est Ultraviolette, ce qui me reste sur les ondes de Chise après quelques messages publicitaires.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chisiennes? Visite le www.chise.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chise.ca.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son. Me poche retourner.
écoutez Les Affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
Midi 35, commencez-vous à être rassasié? Nous, pas encore. On a encore beaucoup de stock pour vous. Félix-Antoine Audet, Madame Damel, qui sont toujours avec vous. Merci de choisir Chiz 94.3. Ce sera un tout petit segment. Vous nous le pardonnerez. De toute façon, la musique est tellement bonne. Ça vaut la peine d'être en pause musicale parce que vous aurez compris. Hein, la directrice des arts, qui exceptionnellement est avec nous, Rosalie Chabot, qui prend un repos bien mérité pour travailler sur sa fin de session.
Oui, c'est vrai, c'est ça qui se passe là.
Mais oui, chez nos étudiants, les bénévoles, on les voit de plus en plus en train de paniquer.
Oui.
Et ils vont bientôt avoir aussi peu de cheveux que moi, si ça continue comme ça.
Ben, on les salue, ces bénévoles vaillants et vaillantes.
Ben, certainement.
En cette fin de session.
On
courage.
J'apprécie énormément. C'est donc pour ça qu'on a de l'aussi bonne musique, parce que évidemment, si Chérie J'arrive s'invite dans Les Affamés, on ne peut qu'en être heureux. Ce petit segment. Passons là à parler de transport en commun. Transport en commun, pourquoi? Parce que on savait déjà qu'il y avait un manque à gagner, qu'il y avait un trou financier. Ça a fait les nouvelles il y a quelque temps. Mm-hmm. C'est encore plus important que ce qu'on pensait originalement. Là. Le trou budgétaire serait de 560 millions de dollars pour l'année prochaine. Et il pourrait bondir jusqu'à 900... J'ai-tu dit milliards, moi?
Pense t'as dit ça.
Oui, non, on voulait dire millions. Excusez-moi, 560 milliards, calmons-nous. Mais ça peut se rendre jusqu'à presque un milliard quand même, 900 millions en 2027, s'il n'y a rien qui est fait présentement. Ce qui est assez catastrophique, merci. Beaucoup de questionnements à avoir, puis un des enjeux qui ressort le plus, c'est clairement que le post-pandémie, on n'a pas encore retrouvé le niveau d'achalandage pré-pandémie. Il y a des enjeux de financement à retravailler. Il y a beaucoup de choses à voir. J'ai pas la solution. Je n'irai pas faire semblant d'avoir la solution pour vous, parce qu'on le sait tous que le transport en commun est un enjeu vital de la transition énergétique nécessaire. Mm-hmm. Mais on vit encore dans une société où l'argent est nécessaire pour acheter des affaires puis pour développer des affaires. Ça en prend de l'argent. Mm-hmm. Par où il va venir? Comment il va venir? Je sais pas si c'est peut-être de la réorganisation aussi, des fois. J'attendais l'autobus tout à l'heure, comme un bon petit garçon de la ville de Québec. Et il y a le merveilleux petit écran qui nous dit à quelle heure les bus arrivent.
Ouais.
Bon, t'as la 800, 801 sur René Lévesque. Bon, classique. 5, 12, 15 minutes. OK, il y en a un dans 30 minutes qui passe un peu moins. OK. Je vois des horaires de bus. Puis peut-être qu'il y a des raisons très logiques. Fait que, permettez-moi, si je suis dans l'erreur, je n'ai pas la science infuse. Mm-hmm. Certainement pas. J'ai pas la prétention. Mais je voyais des horaires d'autobus qui, le prochain bus passait à 15h52.
Oui.
Et il était 9h et quelques du matin. Est-ce que c'est possible que même les gens qui habitent dans ce secteur-là, qui ont besoin de cet autobus-là, ne le prennent pas parce qu'ils peuvent pas dépendre sur un autobus comme ça? Donc là, finalement, on dépense un peu de l'argent dans le vide. C'est le genre de cas où dépenser plus te donnerait peut-être plus d'argent parce que des gens de ce secteur-là pourraient se fier au transport d'autobus.
Ce que je me demande aussi, c'est est-ce qu'on se déplace moins, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas repris notre niveau pré-pandémie, ou est-ce qu'on se déplace davantage en voiture? T'sais, est-ce que c'est juste qu'on sort moins ou on sort plus de la même manière de chez soi après la pandémie? Pour avoir pris pas mal de transport en amigo dans les dernières années, j'ai constaté qu'il y avait une baisse quand même. Les gens étaient moins à l'aise d'être dans la même voiture avec des inconnus aussi. Peut-être que le transport en commun a créé certaines inquiétudes.
C'est un enjeu complexe là, qui ne se limite pas effectivement à une seule chose. Il y a des pistes. Il y a évidemment le télétravail qui fait qu'il y a moins de nécessité. Mais c'est que s'il y a moins de nécessité et qu'on réduit l'offre, ben, les gens qui ont encore besoin de se déplacer vont être dépendants de la voiture. C'est
l'idéal,
tellement
c'est
complexe.
D'augmenter l'offre.
C'est tellement, tellement complexe. Je ne viendrai pas vous dire qu'il y a une solution facile, mais on pense notamment là, à des histoires. Vous en avez entendu sur nos ondes peut-être. Le vendredi, l'animateur des Affamés, Maxime, qui parle régulièrement, il habite à Lévis. Impossible pour lui. Là. Le système en transport, Lévis à Québec, ça, c'est très complexe. C'est coûteux parce qu'il n'y a pas nécessairement de transfert régulièrement. La passe mensuelle, il faut que tu en achètes deux. Notre directeur de la programmation, Kevin Michaud, habite à Charny. Même chose. Absolument impossible pour lui de venir en transport en commun. S'il y a bien quelqu'un qui voudrait, c'est lui. C'est pas possible. C'est un enjeu pour beaucoup de personnes, l'accessibilité au transport en commun. C'est bien beau Montréal, tant mieux pour eux, là, mais il y a un manque à gagner ailleurs. Mm-hmm. Et on le voit de plus en plus. Est-ce que c'est une piste de solution? Peut-être. Ce sera à voir.
Puis le manque à gagner est du côté de Montréal aussi, même qu'il y a probablement des horaires d'autobus qui vont être, enfin,
ben oui, le métro n'a pas été développé en 30 ans. Non. Il y a du monde ailleurs que les premières lignes qui ont été installées, savez-vous quoi?
Oui, mais là, c'est l'autobus probablement à Montréal aussi qui va, en tout cas, subir les contre-coups de ce manque à gagner.
là, je vous invite à rester très certainement en onde. Premièrement, parce que vous allez entendre une super chanson, c'est Les Lunatiques avec J'ai le goût d'une slush. Mais surtout, surtout, parce qu'un des hommes les plus intéressants au Québec sera avec nous, c'est Pierre Lavoie, qui vient nous parler de la baisse de la condition physique chez les jeunes dans les dernières années. Restez sur les ondes de Schiste 94.3.
Les affamés sur les ondes de Schiste 94.3.
Midi 43, Félix-Antoine Audet, Mme Desmeul qui vous accompagne. Il y a une étude qui est sortie tout récemment. Ça a été fait tout d'abord en 1982, là, ça c'est pas récent, vous comprenez bien, là. Kinésiologue Luc Léger et plusieurs autres chercheurs qui avaient fait passer le fameux test navette à des étudiants des Québécois de 6 à 17 ans à travers le Québec. Ça a été refait tout récemment par le docteur Léon, qui a fait le même exercice 35 ans plus tard dans les 6 mêmes villes qui avaient été sélectionnées à la base, Montréal, Québec, Saguenay, Trois-Rivières, Laval et Sherbrooke. Ça a été fait de 2014 à 2017. Et l'étude montre que dans l'ensemble, les jeunes de 6 à 17 ans ont complété en moyenne 30% moins de paliers qu'en 1982. Pour en parler avec nous de cette baisse de la forme physique chez nos jeunes, il est le cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie, conférencier. Il est bien connu à travers le Québec, c'est Pierre Lavoie, vous l'aurez bien deviné. Bonjour, M. Lavoie.
Oui, bon midi.
Merci de prendre le temps d'être avec nous ce midi. Là, dans l'étude, on apprend que le volume d'oxygène maximal que les jeunes sont capables d'utiliser, ce qui est un bon indicatif là, des maladies possibles à avoir, a chuté pour les jeunes rendus à 17 ans sous le seuil critique à 58% chez les garçons, à 70% chez les filles. Il y a un drapeau rouge qui est levé. Ça a été quoi votre première réaction quand vous avez entendu parler de ces résultats-là?
Mais d'abord, c'était une étude crédible, hein, parce que oui. La cohorte était tout près de 4000 élèves.
Oui, c'est ça. C'est un bon
sondage.
Un bon échantillon.
Oui, donc c'était pas une étude rapportée, donc c'était vraiment un échantillon de beaucoup d'élèves et fait d'une façon sérieuse. Donc en premier, il fallait s'assurer que ce soit ça.
Oui.
Par la suite, quand on a vu la baisse d'activité physique chez les jeunes, ça on le savait, mais on savait pas jusqu'à quel niveau. Là maintenant, on nous confirme, on a un comparable fait dans les mêmes régions avec le même nombre d'élèves, dans les mêmes niveaux, donc primaire et secondaire, dans la même province, donc le Québec.
Ouais.
Aujourd'hui, une fois qu'on a ce constat, c'est un peu décourageant, sincèrement. Mais en même temps, ce qu'il faut se rassurer, c'est que le terrain est mobilisé là, depuis des années autour des saines habitudes de vie. On entend parler au Québec ben, pas mal plus que toutes les provinces canadiennes puis dans les États américains. Maintenant, on est prêt à poser des gestes au Québec. Ça prend juste un plan. Ça prend juste une politique. Ça prend surtout créer un modèle québécois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on est organisé pour aller à la guerre. On a des centres de petite enfance. On est capable, à partir de là, de développer dès avant 5 ans, la littératie physique des jeunes. Puis c'est assez simple à faire en passant. Ensuite, au primaire, on a une armée d'enseignants en éducation physique parce qu'ailleurs, dans les autres provinces canadiennes, c'est les titulaires qui font bouger les jeunes. Tandis qu'au Québec, c'est des enseignants en éducation physique avec des formations universitaires. Et par la suite, on arrive au secondaire. C'est là qu'est le plus gros défi parce qu'on sait qu'on perd 71% des jeunes qui arrêtent de bouger entre le secondaire 1 et le secondaire 3. On se dit, OK, là, maintenant, il faut... Qu'est-ce qui fait qu'il abandonne? Bien, ouais. C'est souvent, ça s'est passé avant. C'est un peu comme dans le décrochage scolaire. Michel Perron disait toujours à l'époque, Pierre, le décrochage, ça fait au secondaire, mais ça va débuter au primaire. Donc, il faut travailler en amont. Il faut être capable de créer un modèle qui fait qu'un jeune évolue dans un environnement sain, non toxique et inclusif. Et bouger, c'est pas dans le but de gagner des médailles ou des bannières dans mon école, mais c'est plutôt de maintenir mon corps en santé. Ouais. Bien entendu, les bannières sont importantes.
Ben oui, certainement, ça motive. Mais comment est-ce qu'on explique? Là? Évidemment, il y a plusieurs raisons qui viennent en tête rapidement. Comment est-ce que vous, qui êtes impliqué largement en ce milieu-là, vous pouvez expliquer la baisse de la condition physique de nos jeunes à d'une telle proportion?
Ben, les distractions, là. Bien entendu, les iPads. Le téléphone cellulaire existe depuis 13 ans maintenant, l'iPhone. Ouais. L'iPad depuis 10 ans. On sait que nos enfants sont hyper captifs à ça. Et le nombre d'heures d'activité physique dans les écoles avait beaucoup diminué. Là, on a réussi à le réaugmenter, à atteindre un niveau assez intéressant au primaire. Au secondaire, c'est un gros problème. 2 périodes sur 9 jours, c'est pas suffisant. Et tout ça, donc, on sait que quel geste poser, on sait pas mal quoi faire pour sauver la situation.
Ce serait quoi, justement, ces gestes-là, ces solutions-là?
Ah ben il faut s'asseoir tous ensemble, là. Donc que ce soit le réseau du sport étudiant, que ce soit le sport civil, que ce soit les enseignants d'éducation physique, que ce soit les CPE, la FADOC qui doit maintenant nous envoyer des bénévoles. On manque de bénévoles au Québec pour faire vivre nos organisations. Vous voyez, il y a une forme de concertation générale où l'objectif est commun, qu'un enfant reste actif pour la vie. Et pourquoi qu'on les perd après le secondaire, le 30% qui ont poursuivi, là, qui n'ont pas abandonné, là, qui ont continué à faire du sport, 50% de ce groupe abandonneront après le secondaire 5. Il reste seulement 15% de jeunes actifs rendus au cégep. Donc, c'est une catastrophe. Donc, on n'est pas bon. Il faut être capable de créer un modèle où on est efficace. Si on ramène le sport à ses valeurs premières, c'est que c'est pour maintenir mon corps en santé. Et mon corps, j'en avais besoin pour travailler, voyager, avoir du plaisir. Je dois m'en occuper. Donc, il faut changer le spirit de l'activité physique. Le spirit de l'activité physique a tourné vers le sport. Je n'ai rien contre le sport, mais si j'aime à ma grande-tante qui a 82 ans, vous devriez faire du sport pour maintenir votre corps en santé. On me dit, mais non, Pierre, j'ai 82 ans. Alors, si je lui dis, par contre, tu devrais être active pour maintenir ton corps en santé. Ah oui, parfait, je vais aller marcher tous les jours. Mm-hmm. Vous comprenez? Là, je viens de l'inclure. Il y a grande majorité, 70% des gens, ils n'aiment pas ça, faire du sport. Excusez-moi, là, c'est ça. Mais donc, pourquoi? Il faut savoir pourquoi. Où ça s'est passé? Ah, puis là, quand on questionne, on se rend compte c'est que ça a commencé très tôt dans leur vie. Mm-hmm. Donc, il y a des biais dans nos systèmes qui fait qu'on exclut des gens pendant des années sont inactifs.
Est-ce que c'est la concentration peut-être sur la compétition? Vous en avez parlé un peu très jeune. Là. Moi, je me prends personnellement en exemple. Je pense que je suis un cas relativement différent parce que je me suis intéressé au sport plus tard, rendu au secondaire, mais j'avais pas les habiletés physiques naturelles quand j'étais jeune. Donc, certainement, quand c'était vite compétitif, ben, j'étais pas utile, j'étais pris en dernier, fait que j'ai eu un désintérêt rapidement du sport. Est-ce que c'est cette concentration, cette fixation sur l'aspect compétitif?
Tu viens de résumer en deux phrases, là, et c'est exactement ça le problème.
Ouais.
Bon. Mais c'est ça le problème, c'est carrément ça le problème. Mm-hmm. Tu te trouvais pas dans ce système qui était finalement fait pour remporter une bannière pour accrocher dans notre école, remporter une médaille ou un classement. Tu sais, on fait encore l'erreur d'amener nos jeunes en cross-country scolaire au primaire.
Oui.
Pour les faire courir. Pourquoi? Le but de l'exercice, c'est récupérer les trois meilleurs qui iront à la finale régionale. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est quand les 800 élèves partent en même temps, ils partent tous trop vite. Le trois quarts auront un point à gauche, en dessous des côtes. Et là, ils vont se mettre à marcher, ils vont réessayer après une fois que le point est disparu, le point va réapparaître. Et là, ils vont se mettre à pleurer, ils ne se trouvent pas bon.
Mmh.
Mais non, c'est parce que tu es parti trop vite et tu n'étais pas réchauffé. Mais je ne suis pas un psychologue derrière chaque enfant pour corriger la situation, mais l'enfant a une connotation négative de la course à pied. Ça n'aurait pas été le fun. Et toute sa vie, il n'aimerait pas la course. Parce qu'au primaire, on a voulu trouver trois champions pour la finale régionale. Tu ne dois plus jamais faire ça, là. C'est des affaires qu'on ne doit plus voir. Donc, c'est ça un modèle. Un modèle québécois, il y a le modèle scandinave, il y a le modèle australien, il y a le modèle américain. Mais moi, je pense que le Québec doit se dissocier des approches canadiennes et créer son propre modèle axé sur les saines habitudes de vie et la santé. Bien entendu, sans mettre en compétition avec la performance, elle sera toujours là, elle sera toujours nécessaire, mais rapidement ramener le sport et ses vraies vertus, c'est pour maintenir notre corps en santé. Donc, à ce moment-là, toi, tu ne recevras pas de pression, même si tu es moins habile, mais l'important, le spirit de l'événement que tu participes ne doit pas être orienté vers absolument gagner. Dans ça, ils vont te bencher assez vite. Moi, je vois ça, là. J'ai vu ça, je vous le dis, là. J'ai vu ça de mes yeux vus. J'ai suivi ma fille au volleyball du secondaire 1. Elle est rendue au cégep maintenant. Du secondaire 1 au secondaire 5. Et on ne s'est pas gêné de bencher 2 à 3 filles de l'équipe durant toute la fin de semaine parce qu'elles nuisaient à la bannière qu'on voulait ramener dans le gymnase. Ces jeunes filles, bien entendu, n'ont pas eu de plaisir. Leur estime de eux a diminué. Leur confiance en eux a diminué. Donc, ils ont voulu laisser le volleyball ou le basketball par la suite. C'était le même système. Finalement, ils ont fini sur l'heure du midi avec leur téléphone dans ce monde virtuel. Pourtant, tout ce qu'ils voulaient, les enfants, c'était avoir du plaisir avec leurs amis.
Ouais.
Ça, c'était pas là.
Monsieur Lavoie, outre l'aspect compétitif qui semble être inhérent à la pratique d'un sport, j'ai tendance à toujours regarder le système dans lequel notre société évolue. Et si un aussi grand nombre d'ados cessent de pratiquer le sport entre le secondaire 1 et 3, c'est là où on en perd beaucoup. Est-ce que la pression de performance par rapport aux études, aux notes, aux conditions de vie, le fait de devoir trouver un travail peut-être pour aider papa, les parents à la maison à gagner des sous, est-ce que c'est quelque chose qui est aussi considéré dans la pratique du sport où on s'intéresse vraiment seulement à cet aspect-là compétitif?
Bien, le côté compétitif est très bien organisé. Okay? Je dois le dire, là, de ce côté-là, c'est organisé beaucoup dans les écoles, autour des écoles, dans le parascolaire, dans le civil aussi, qui sont autour des écoles, pour nourrir leur système. Mais eux ont compris, ont commencé à dire, OK, maintenant, on arrête de spécialiser les jeunes. Donc ça, c'est un grand gain. Aujourd'hui, je vous parle, c'est un sport Québec, là. Je suis à Montréal, dans leur bureau. C'est tous les sports civils du Québec qui sont là, là. Ils sont tous d'accord à retarder la spécialisation après 13 ans. Est-ce que ça viendrait aider, ça, que le jeune, quand il rentre dans un nouvel environnement, le secondaire, bien qu'il ne retrouve pas un nouveau système qui exclut, qu'il retrouve un environnement où on a du fun, nos profs des deux qui sont là, ils ont la main levée, souvent, on ne les prend pas au sérieux. Peut-être qu'eux aussi, de leur côté, ont un travail à faire pour ça intéressant, l'éducation physique au secondaire. Ils ont aussi un travail à faire de leur côté à eux. Donc, c'est important de faire des choses ensemble, se concerter avec un objectif commun. Donc, quand je donne un objectif à tout le monde, c'est pour qu'un enfant reste actif pour la vie. À ce moment-là, moi, qui ai un réseau de sport bien organisé, que j'ai besoin d'athlètes olympiques de performance pour nourrir mon système, quand j'adhère à cette valeur, je retarde ma spécialisation. Donc, on sait maintenant que si tout le monde collabore dans cet objectif commun, bien, on finira par créer un modèle québécois qui part des CPE, où l'enfant n'est jamais discriminé. Puis finalement, les jeunes qui arrivent en secondaire 3, à ce moment-là, s'ils veulent enfiler dans les modèles performance, il est là, il est accueillant. Puis ils sont super contents parce que le jeune a développé une littératie physique beaucoup plus large, donc il sera meilleur en plus. Puis les autres auront, en parallèle encore, des activités inclusives axées sur le plaisir, parce qu'ils veulent bouger avec leurs amis.
Ouais.
Ils arriveront au cégep, vous savez, je parle du volleyball, mais je parle juste du cégep de Chicoutimi, non? Je te donne un exemple, parce que je vous dis, il y a des affaires qui se passent présentement.
Oui.
Quand ma fille est revenue, elle dit, papa, tu sais que je jouerai peut-être pour le volleyball cette année. Je dis, comment ça? Ben, c'est parce qu'ils prennent seulement une équipe au cégep. Oui, mais c'est parce qu'il y a 4 écoles secondaires, là. Vous étiez 4 équipes de jeunes filles de volleyball, vous êtes suivies tout le long du primaire, du secondaire, là. Ils en prennent seulement qu'une. Fait qu'ils ont pris les meilleurs. Elle a fait l'équipe, là, OK? Mais tous ses amis qui n'ont pas été choisis, ben, il y avait une seule compétence, c'est le volleyball en équipe.
Là,
maintenant, ils sont mal pris, ils arrivent au cégep. Ils savent pas faire d'autres sports.
Ouais. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, c'était le badminton. Rendu à l'universitaire, j'avais plus le niveau. J'y avais plus moyen de continuer de manière compétitive, de façon facile et accessible. Il y a toujours un réseau civil, mais ça demande du transport, ça demande
C'est pour ça qu'un exemple, j'ai un exemple en infrastructure. C'est important, non?
Oui.
C'est pour ça qu'à Chicoutimi, on veut construire pas une piscine. Au début, ça devait être une piscine 50 mètres, 8 couloirs. J'ai dit non, ça sert pour les élites, là. Ils sont quatre en ville, là. Excusez-moi, là, on va construire deux bassins, 10 couloirs, 25 ouais. mètres, un chaud, un froid.
On exagère.
Parce que le ouais. chaud, c'est pour les enfants. Ouais. Quand tu le mets dans l'eau chaude, ils adorent ça. Quand tu le mets dans l'eau froide, ils n'aiment pas l'eau. Fait qu'ils n'aiment pas l'eau à vie parce que tu l'as mis dans l'eau froide.
Ouais.
Donc, et puis, les jeunes nageurs ont besoin d'eau froide. Si vous mettez dans l'eau chaude, ils suffoquent. Donc, on a un conflit de clientèle. Donc, vous faites deux bassins, un chaud et un froid de 6 degrés de différence.
Ouais.
Là, maintenant, ça touche tout le monde. C'est inclusif. Et surtout, à 100 ans, tu pourras encore bouger en nageant et marcher. Les autres sports, tu ne pourras plus les faire. Donc, la natation, le sport, les piscines, c'est hyper important. C'est tout un outil, là, pour faire bouger ta population. C'est pour ça, faut bien la concevoir. Faut la concevoir dans un esprit inclusif, ça.
Monsieur Lavoie, on pourrait continuer à vous parler pendant des minutes et des minutes, mais l'émission tire à sa fin. Merci beaucoup
de nous avoir parlé. Je veux vous dire qu'il y a de l'espoir, parce que je suis à Montréal, là. Oui. Avec la table, justement, c'est le centre d'études de vie. Il y a 45 personnes là, qui viennent de tout le Québec. Là. Les CPE sont là, tout le monde est là, les kinésiologues sont là. Tout le monde est content de voir l'article ce matin. Il va y en avoir d'autres articles, ça va durer pendant 3 semaines. Moi, j'ai vu les autres articles, c'est catastrophique ce qui s'en vient. Mm-hmm. Donc, j'espère que ça va alarmer les Québécois. Ça va surtout nous mobiliser pour dire créons notre propre modèle pour faire bouger notre jeunesse toute leur vie.
Mm-hmm. En terminant, M. Lavoie, évidemment, là, vous êtes impliqué dans tellement de belles initiatives, que ce soit le Grand Défi Pierre Lavoie ou quoi que ce soit. S'il y a des gens qui vous écoutent en ce moment, qui sont interpellés, qui se disent comment est-ce que je peux aider la jeunesse à bouger, est-ce qu'il y a des moyens de vous aider ou autre là,
oui.
que vous pouvez l'en nommer?
Ben, quand on est dans une table, dans une école, on fait partie d'un conseil d'établissement, on oblige la butte de neige dans notre école. On l'oblige. Mmh. On dit c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. C'est essentiel pour développer la littératie physique de nos enfants. Puis le moment le plus important dans la vie, le plus important hein, qui va faire que vous allez être habile dans bien des sports, là, ça se passe entre 0 et 5 ans. Si vous mettez vos enfants dans un environnement où la stimulation est inexistante, ben votre enfant sera inhabile. Moi, j'aime mieux dire imbécile toute sa vie dans les sports.
Mmh.
Et là, il va arriver à l'école, il va se faire exclure. Il s'exclut. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai fait le Mario, ils vont sortir aussi. Là. Le jeune, c'est lui-même qui s'exclut.
Mmh.
À partir du primaire.
Ouais.
Pas à partir du secondaire. Donc, on sait que ça se passe avant. C'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup en amont avec les organismes pour dire qu'ils avaient un rôle à jouer avant que le jeune rentre dans les systèmes scolaires où là, il y a beaucoup de discrimination, d'exclusion qui se produit naturellement. Il faut les repérer. Mmh. Il faut les éliminer, ces systèmes-là. Parce que là, on ne peut plus se permettre de perdre des jeunes qui, tantôt, ça va tous nous coûter.
Oui.
C'est pas juste pour le système de santé, c'est juste pour l'humain en général.
Oui.
L'humain a la chance de vivre très vieux, 100 ans, avec une capacité cognitive et physique inimaginable. Mais malheureusement, on ne va jamais à ces niveaux-là parce qu'on ne s'organise pas pour qu'ils se rendent. Aujourd'hui, quand on regarde nos enfants, c'est la première génération qui vont vivre moins vieux que leurs parents. Donc, c'est inacceptable.
Merci beaucoup, M. Lavoie. Pierre Lavoie, conférencier, cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie. Et vous l'avez entendu, quelqu'un qui cherche à faire bouger nos jeunes. Merci d'avoir été là.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Au revoir. Donc, on va terminer cette émission rapidement. Et je veux juste rapidement, je vais prendre quelques secondes. Petite nouvelle douce amère, je pense, pour terminer cette émission. Je tiens à la souligner, la nomination de Volodymyr Zelensky,
ouais.
le président ukrainien, à titre de personne de l'année, selon le Time Magazine. Toujours quelque chose d'impressionnant comme distinction. D'où amer, pourquoi? D'où parce que c'est bien mérité, c'est un homme qui a été inspirant. Il y a plein de choses politiquement qui ont été dites sur lui avant, peu importe. Ce qu'il a fait en temps de guerre pour son pays, c'est inspirant. Amer parce que c'est pas terminé, puis il y a encore une crise à gérer là-bas. Et on leur souhaite évidemment tout le courage du monde. Quelle belle manière de finir cette émission que d'avoir écouté Pierre Lavoie. J'aurais honnêtement pu garder cette émission en ondes 20 minutes de plus
ouais.
si c'était pas de la grille horaire. Madame Demel?
Oui, Monsieur Audet.
Ça a été un plaisir
n'importe
d'animer
quel.
Ça avec vous. J'espère bien. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été là. On se retrouve demain.
écoutez Chiz 94.3